Bonjour à tous. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je vous remercie également les précédents conférenciers. Je disais tout à l'heure à Jean-Pierre Bellon que on ne pourrait pas passer une feuille de papier à cigarette entre son discours et le mien. Voilà. Donc vous allez avoir une double dose, sans doute, de ce que vous a déjà dit Jean-Pierre Bellon. Donc je suis d'accord en particulier sur l'histoire de la terminologie. C'est une de mes grandes préoccupations. Et ça fait le lien aussi avec la terminologie sur l'empathie, parce qu'on va avoir aussi, sans doute, quelque chose à dire là-dessus, parce que l'empathie est devenue maintenant quelque chose de tellement galvaudé, alors que c'est un sujet éminemment important, qu'on finit par dire un peu tout et n'importe quoi, et on aurait tendance à dire « Ah, mais si tu n'as pas d'empathie, c'est que vraiment tu n'es pas quelqu'un de bien. » Or, voilà, on peut aussi, à certains moments, manquer d'empathie. Donc, c'est comme pour le harcèlement, il va falloir qu'on fasse attention à notre vocabulaire, bien sûr, sur le rôle des adultes, et puis surtout, ce qui me tient beaucoup à cœur, c'est les profils de situation. Et parce qu'il y a une situation donnée que les gens deviennent ceci ou cela, victimes ou harceleurs, et non pas seulement parce qu'ils ont des profils particuliers. Je ne méconnais pas toutefois en tant que pédopsychiatre le fait qu'il y a des enfants qui ont en effet des profils particuliers, c'est à peu près 10% parmi ceux qui harcèlent, selon les voix, on s'en occupe, mais ça n'est pas la majorité. Donc voilà, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit avant. Donc on m'a demandé de traiter des conséquences, avec c'est sans doute grâce aux conséquences qu'on a pris conscience en France de la gravité de cette situation qui auparavant, comme ça a déjà été dit, était considérée comme des jeux d'enfance, c'est normal, il faut apprendre à se défendre, c'est la vie, etc. Donc voilà, donc je pense que c'est une bonne chose de tordre le cou. Je rends aussi hommage à Jean-Pierre Bellon qui a été un des premiers vraiment à s'intéresser à ça en 2002. Moi, quand j'ai écrit mon livre en 2008, il avait déjà fait son site, l'a fait. Voilà, donc... et puis Eric de Barbieux, que je remercie aussi toujours régulièrement, parce que c'est lui quand même qui a porté à la connaissance toutes ces conséquences dont je vais vous parler. Pour que ce soit peut-être plus didactique, je me suis dit que c'est peut-être mieux, vous retiendriez plus facilement les choses si je partais de la définition, comme ça du coup vous pourrez vous souvenir beaucoup plus facilement de ces conséquences. Alors je répète, hein, intentionnellement agressif, qui durerait, qui se répète, et qui induit une relation déséquilibrée, dont la victime ne peut se sortir seule, ça a été dit ce matin. Moi, j'aimerais bien, en effet, que quand il n'y a que les deux premiers items, agressifs qui durent et qui se répètent, on parle de brimade, peut-être, on donne d'autres termes, de manière à différencier un petit peu, mais je pense qu'on a été contaminé par le terme de Marie-France Irigoyenne, qui est sorti dans les années 90, du mot de harcèlement, je crois que c'est devenu quelque chose d'important. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on a une conduite intentionnellement agressive? Alors, ça arrive dans beaucoup d'autres situations relationnelles, hein, des vifs désaccords, des disputes. C'est jamais très agréable, mais on ne peut pas considérer que ça serve à caractériser le harcèlement. Mais surtout, ce qui est important, c'est le ressenti de la victime. Parce que tout le monde ne ressent pas les choses de la même manière. Là, on va tomber sur ce qu'a dit Omar Zana tout à l'heure, c'est-à-dire les émotions. On n'a pas tous le même bagage neurobiologique pour comprendre ces émotions. On n'a pas tous la même histoire de vie, on n'a pas tous les mêmes supports autour de soi, qui fait donc qu'on a un ressenti complètement différent. Et ça, c'est très important, et bien entendu, ça ne fera pas les mêmes dégâts selon la manière dont la victime va ressentir les choses. Et puis, surtout, ce qui est important, c'est ce sentiment d'incompréhension, de sidération. La victime ne comprend pas toujours pourquoi ça les gêne, en quoi ça les gêne que je sois gros, que je sois roux, que je sois frisé, que je sois mauvais élève, qu'est-ce que ça peut leur faire? Eux, ils sont pas tout ça, pourquoi ça les gêne? Pourquoi finalement? Donc c'est vraiment le ressenti de la victime qui va faire souvent toute la gravité. Et bien sûr, plus la victime a d'autres facteurs associés de vulnérabilité, plus ça va avoir un poids très lourd. C'est-à-dire que s'il n'a pas en effet l'environnement dont je parle tout à l'heure, s'il a une histoire de vie absolument catastrophique, ou s'il a aussi une vulnérabilité personnelle. Il y a des enfants qui ont des vulnérabilités. Alors maintenant, on parle beaucoup de la bipolarité, hein, vous savez, mais il y a des enfants qui ont des fragilités personnelles, et bien sûr, ça va aggraver considérablement les choses. Et c'est pour ces enfants-là qu'on va trouver, bien sûr, le plus de conséquences à long terme. Voilà. Mais il peut y avoir aussi des vulnérabilités situationnelles, hein, par exemple, des situations dont je parle là, des séparations parentales, des deuils, des difficultés socio-économiques, c'est-à-dire que ça ne vient pas de la personne en elle-même, c'est l'environnement, comme Jean-Pierre Bellon l'a très bien dit tout à l'heure, qui est un facteur de vulnérabilité. Et ça aussi, c'est extrêmement important, et il faut en tenir compte. Alors, situation qui dure et qui se répète, bien sûr, c'est la durée qui fait la gravité. On sait qu'en moyenne, les enfants révèlent une situation de harcèlement, et encore, je parle des plus jeunes, 4 à 6 mois, c'est énorme. Je le dis souvent, un enfant qui a 10 ans, 6 mois de sa vie, regardez ce que ça fait en termes de pourcentage. C'est absolument énorme. Et comme si nous, adultes, nous étions harcelés 2 à 3 années de notre vie professionnelle. On sait bien les dégâts que ça fait, on n'attend pas souvent 2 ans avant d'avoir des dépressions sévères ou des tentatives de suicide. Donc c'est vrai que cette durée, donc ça veut dire bien sûr qu'il faut éviter que ça dure, donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des gens qui interviennent, que ce soit les pères, bien sûr, ou les adultes, bien évidemment, parce que moins ça dure, moins c'est grave, c'est une évidence. Donc ça, c'est extrêmement important. Ce qui est plus compliqué, c'est que souvent, ce que j'ai vu dans la clinique, c'est que vous avez une période de harcèlement en CM2, ça s'arrête en 6e, ça reprend en 5e ou en 4e, c'est-à-dire que finalement, vous avez toute une scolarité qui est émaillée de harcèlement, alors même qu'il y a eu des périodes entrecoupées. Et j'allais dire, chaque fois que ça recommence, c'est pire la deuxième fois que la première. C'est des effets rebonds, c'est absolument terrible. Et on a comme ça des enfants qui, ça a passé la première année, on n'en parle pas, il y a une année tranquille, ça recommence l'année d'après. Et puis encore une année tranquille, etc. Et on a comme ça des récits de gens qui vous racontent qu'ils ont été harcelés 3-4 ans pendant les 7 ou 8 années d'une scolarité. Donc c'est vrai que c'est problématique. Donc ça doit faire réfléchir aussi sur une intervention trop rapide, avec un risque de changement d'établissement trop rapide, parce qu'on peut penser ça s'est arrêté, on ne cherche pas à comprendre pourquoi, ce qui s'est passé, ce que la victime a ressenti, et puis on passe à autre chose. Donc il faut vraiment faire attention. Les périodes d'arrêt ne veulent pas dire qu'il n'y a pas eu de conséquences. En tout cas, il faudra toujours s'en occuper. Alors la relation d'emprise qui vise à humilier, bien sûr, la victime et dont elle ne peut se sortir seule, le sentiment d'impuissance est un très, très puissant facteur de stress. On sait maintenant, les enfants qui ont été exposés sans être victimes eux-mêmes à des violences conjugales sont terriblement affectés parce qu'ils ne peuvent rien faire pour arrêter la dispute, pour protéger le ou les parents qu'ils sentent en danger. Et le sentiment d'impuissance est malheureusement aussi quelque chose qui est utilisé sur les terrains de guerre, hein, on sait bien. On maltraite une personne en obligeant les autres personnes de sa famille à regarder, de manière à ce qu'avec ce sentiment d'impuissance, ils soient aussi affectés que la victime qui a été touchée. Donc on a, au fond, c'est quelque chose d'assez affreux, mais on a un décompte morbide. Pour une personne qu'on a maltraitée, on en a 10 qui vont souffrir. Donc le sentiment d'impuissance est un puissant facteur de stress, et c'est sans doute une des raisons pour lesquelles c'est souvent les spectateurs qui finalement alertent leurs propres parents, qui vont alerter le parent de la victime pour dire « j'en peux plus, je ne peux pas laisser faire ça, c'est pas possible ». Donc vraiment, le stress, c'est quelque chose dont il faut s'y tenir compte chez les spectateurs. On n'en parle pas assez. Moi, j'ai eu des témoignages de jeunes me disant « je regrette infiniment de ne pas avoir pu intervenir parce que j'ai laissé faire des situations. J'ai appris que cette personne n'allait pas bien par la suite. Je me sens un peu responsable ». Donc, il y a aussi le stress des spectateurs dont il faut tenir compte et dont il faut s'occuper. Des enquêtes ont montré que plus le stress apparaît jeune, entre 8 et 12 ans, plus grand est le risque de stress post-traumatique. Il y a 40% d'enfants parmi ceux qui ont été harcelés entre 8 et 12 ans qui auront des stress post-traumatiques, ce qui est assez logique, puisqu'ils n'ont pas forcément, on parlait d'Olivier Houdet tout à l'heure, mais il a suivi un peu les... il a repris certains stades qu'avait proposé Piaget en disant que c'était peut-être la seule chose qu'on pouvait garder de la théorie piagétienne, et il a tout à fait raison. On peut garder en effet ces stades, c'est-à-dire que jusqu'à 8-10 ans, un enfant ne peut pas se détacher de la manière dont on le voit, du discours qu'il entend. Ça n'est qu'à partir de 10 ans qu'il est capable d'avoir un regard un petit peu sur lui-même et sur les propos qu'on tient, ce qui explique que donc l'enfant prend pour argent comptant ce qu'on dit sur lui. Il n'a pas cette capacité de dire « mais après tout, c'est peut-être eux qui sont dérangés, mais moi je vais très bien voilà. ». Il n'a pas cette capacité-là, d'où le stress post-traumatique qui est beaucoup plus fréquent à cet âge-là. La relation, la dynamique de groupe, Jean-Pierre Bellon l'a bien montré tout à l'heure en parlant de mobbing, cette meute, hein, c'est ça qui fond littéralement hein, sur la victime, avec, comme je le dis souvent, une auto-excitation à l'intérieur du groupe, où ce qui compte, c'est d'avoir l'idée la plus créative pour embêter l'autre, au mépris de la souffrance de la victime, ce que vous avez très bien rappelé, M. Bellon, en disant que, au fond, on voit des gens plutôt normaux faire des choses horribles, mais ça s'explique parce qu'ils ont complètement perdu de vue la victime. Ce qui compte, c'est d'appartenir au groupe et d'avoir l'idée la plus créative pour devenir le plus, celui qui a fait la chose la plus gore à l'intérieur du groupe. Donc voilà, la dynamique du groupe se met toujours en place du côté du harceleur. Une chose que j'ai remarqué moi aussi, c'est que j'ai beaucoup théorisé le fait qu'harceleur et victime avaient des points communs, qu'ils étaient tous les deux aux prises avec des émotions qu'ils avaient du mal à maîtriser. Et souvent le harceleur, du fait de cette émotion un peu à fleur de peau, est quelqu'un qui est souvent assez charismatique. Il est assez charismatique parce que précisément, il a cette sensibilité, il perçoit très vite les choses, il perçoit vite la faille chez l'autre aussi, bien sûr. Et cette sensibilité fait qu'il a une espèce d'aura qui fédère extrêmement rapidement les autres. Et puis après, l'appartenance au groupe fait en effet le reste. Alors c'est souvent lui qui a été gêné, c'est le seul à être gêné souvent par la différence de la victime. Les autres ne font que suivre avec la dynamique de groupe que vous avez rapportée, c'est l'auto-excitation dont j'ai parlé. Alors le cyberharcèlement, je suis d'accord avec vous, on ne peut plus parler de harcèlement sans parler du cyber quelque chose. Je suis complètement d'accord, ça commence à l'école, ça finit sur le net. Et d'accord aussi avec ce que vous avez dit, quand ça commence sur le net, c'est pas du tout la même chose que commencer sur le net et arriver à l'école. On est tous d'accord, je veux dire, quand on est clinicien de terrain, c'est une évidence. Voilà, ça, il faut que vous ayez ça en tête, c'est extrêmement important. Ça commence à l'école, ça se termine sur le net, voilà, et on peut le traiter avec les outils que nous avons, tout ce qui a été dit par Omar Zana, tout ça, je pense que c'est tout à fait intéressant. Les chiffres là, qu'on a, hein, c'est... Alors, la cyberviolence, c'est avoir été, une fois ou pendant une période courte, avoir subi des moqueries ou des commentaires désavantageux à partir d'une image ou de quelque chose qu'on a mis sur Facebook. Le cyberharcèlement a les mêmes critères à peu près que le harcèlement en face à face et répond donc à peu près au même pourcentage, 5 à 6% que le harcèlement sévère, donc on est à peu près dans les mêmes configurations. En revanche, la cyberviolence c'est 40% et chez les lycéens, j'ai trouvé une enquête récente, 61% de cyberviolence chez les lycéens, puisque monsieur est lycéen, 61%, donc près de 2 élèves sur 3, enfin pas tout à fait, qui ont été victimes de propos négatifs, désagréables, insultants, au moins pendant une période courte, ce qui est absolument phénoménal. Voilà, la réaction inappropriée des adultes, tout à l'heure il en a été beaucoup question, hein, les adultes qui désignent à la vindicte souvent l'enfant lui-même, mais alors dans le cas de cyberharcèlement, et Justine Natlan vous le dira sans doute cet après-midi, la suppression de tous les objets connectés, il ne faut pas faire, bien entendu, c'est une réaction émotionnelle de la part des adultes, il faut les laisser aller sur le net, mais dire je suis avec toi, je regarde avec toi, et j'aimerais maintenant que tu me dises ce que tu ressens face à ça, et qu'est-ce que tu aimerais faire. Voilà, il y a ça, tu vois ça, qu'est-ce que tu aimerais faire? Tu aimerais faire quoi? De manière à faire un débriefing, en gros, et certainement pas arrêter. On peut limiter, bien entendu, on peut limiter l'accès, mais certainement pas priver l'enfant de tous ces objets connectés parce qu'ils ne savent pas ce qu'il dit sur eux. Et moi, j'ai vu dans ma clinique une jeune fille qui a fait une tentative de suicide à la suite de la suppression de ces objets parce qu'elle disait, mais elle, c'était, comme on disait ma grand-mère, monter le bobichon, elle s'est montée la tête, persuadée qu'on allait raconter des trucs absolument affreux sur elle. Ce n'était pas forcément le cas, c'était la suite de ce qu'elle avait déjà entendu. Voilà, donc les idées reçues, ça, c'est Justine Atlan qui me l'a appris et je l'ai vérifié. Dans le monde cyber, hein, les risques sont plus importants pour les plus âgés, dit-on. Et Justine Atlan dit c'est pas vrai, parce qu'ils maîtrisent aussi beaucoup mieux. Et donc le préjudice diminuera avec l'âge. Donc là aussi, je pense que, d'accord avec ce qui a été dit aussi par Jean-Pierre Bellon, et si c'était une chance finalement pour notre société de nous occuper du harcèlement, parce que peut-être ça va nous permettre de revoir certaines choses, certains de nos préjugés, certaines manières d'élever les enfants, certains discours qu'on a trop dit, qui étaient sans doute opérants dans le monde d'avant. Mais le monde aujourd'hui n'est plus le monde d'avant. Il va falloir qu'on change. Alors il y a des grandes valeurs, hein, qui restent, la morale, etc. Mais il y a des choses qui changent aussi. Voilà, donc voilà, les conséquences, alors à court terme, il faut que je vous parle. Donc l'anxiété, c'est la première conséquence qui est liée à l'incompréhension. Hein. Qu'est-ce qui va m'arriver? Pourquoi moi? Qu'est-ce qui va se passer? Jointe à l'impuissance. Cette anxiété est à l'origine d'une indisponibilité pour être attentif. Quand on est tracassé par un sujet, quel qu'il soit, on est inattentif, c'est là qu'on va poser les clés dans le réfrigérateur au moment où on rentre les courses et on va chercher ses clés de voiture partout parce qu'on pensait autre chose et qu'en pilotage automatique, on les a mis dans le réfrigérateur, voilà, et qu'on ne sait plus trop où ils sont. Donc, à l'école, c'est dramatique parce que c'est une chute des résultats scolaires. À la maison, c'est forcément des troubles de l'humeur, une irritabilité, des troubles du sommeil, de l'alimentation. Et c'est très embêtant quand ça arrive chez des jeunes qui sont en 6e, 5e. On se dit, ça y est, c'est la crise d'adolescence. Sauf que ce n'est pas forcément la crise d'adolescence, c'est du harcèlement. Et si on ne pose pas la question, on n'a aucune chance d'avoir la réponse. Donc, dans l'année qui suit le harcèlement, la victime, en effet, sa seule solution pour garder encore un peu d'estime d'elle-même, c'est de se défendre seule. Elle ne veut pas recevoir d'aide. Il y a la honte, le sentiment d'avoir été humilié, d'être honteux. Qu'au moins je sois capable de me débrouiller seule. Et puis on me dit tellement, tu te défends, débrouille-toi seule. J'entends tellement ça dans mon discours. Donc il faut bien, moi aussi, que je m'en sorte seule. Et puis il n'y a pas d'aide non plus. Personne ne me vient en aide. Donc je suis aussi obligée de m'en sortir seule. La seule échappatoire, c'est s'absenter de l'école. Évidemment, sur le net, ce n'est pas possible. Catherine Blaya avait fait une étude qui date maintenant un petit peu, qui a 7-8 ans, qui montrait que 30% des refus scolaires étaient liés au harcèlement. Le chiffre est sans doute un peu supérieur maintenant. On est sans doute pas loin des 40 à 45%. C'est sans doute beaucoup plus important maintenant. Voilà. Et puis, ne pouvant donc recevoir d'aide, changer de point de vue, la victime finit par se dire la loi du plus grand nombre. Tout le monde est d'accord, c'est qu'ils ont sans doute raison. Et donc, elle s'attribue les critiques et se considère comme indigne de vivre. On a un repli dépressif, un risque de passage, un risque suicidaire. Pour les victimes, encore, parce que je vais vous parler des harceleurs après, pour les victimes, dans les 2-3 ans qui suivent, c'est une difficulté à nouer des relations sociales. Toute situation de groupe leur fait beaucoup, beaucoup craindre l'idée que ça recommence. Moi, j'ai eu des témoignages de jeunes de 23, 24 ans qui font souvent les victimes font souvent des métiers d'aide, ce qui est logique, hein, on se soigne aussi avec ces métiers d'aide, ce qui est assez logique. Et il y a dans les métiers d'aide, il y a beaucoup de réunions de synthèse, on reçoit aussi des personnes extérieures pour du partenariat. Et ces personnes me disaient, quand c'est avec mon équipe, des gens que je connais, ça va, dès qu'on a des personnes extérieures qui arrivent dans la pièce, j'ai une attaque de panique. Donc c'est vraiment des difficultés au plan professionnel, au plan personnel. Ils me disent également que les fêtes entre copains, quand c'est avec des couples qu'elles connaissaient, c'était très bien, mais dès qu'il y avait une fête au-delà de 10 personnes, elles ne pouvaient pas y aller, elles avaient des attaques de panique. Donc on finit par développer une vraie phobie sociale, ce qui est tout à fait embêté, et il peut y avoir une fixation pathologique sur la différence repérée par le harceleur. Par exemple, le poids, on sait que le poids est quelque chose qui est très vite repéré, et on a vu des troubles du comportement alimentaire apparaître à la suite de ça, avec des anorexies qui se sont installées de manière relativement sévère. Au début, c'était pour perdre du poids, et puis ensuite, donc la personne ne pouvait plus s'arrêter et s'est trouvée embarquée dans une situation d'anorexie. Donc ça devient une fixation pathologique, c'est-à-dire que la personne ne voit plus que ça, que ce qu'on a dit sur elle, que c'est quelqu'un timide, ou que c'est quelqu'un de... Et on ne voit plus les autres qualités, donc c'est très difficile d'arriver, nous, en tant que thérapeute, de les sortir de ça. Et cette fragilisation de l'estime de soi qui va durer, en effet, et c'est terrible dans notre société où on a un besoin d'assertivité. On n'arrête pas là de parler de faut s'entraider, etc. Oui, mais dans la société actuellement, on n'est pas trop là-dedans, on est dans il faut marcher un peu sur les autres pour être le premier, parce qu'il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Il faut être sûr de soi, il faut arriver. Quand il y a plusieurs entretiens de personnes qui ont le même diplôme, c'est celui qui va emporter, quitte à forcer un peu le trait, à se montrer convaincant. Donc on a besoin d'être assertif, on a besoin de montrer ce qu'on est. D'ailleurs, dans les CV, on dit aux enfants, mais dites, qu'est-ce que vous allez apporter à l'entreprise? Moi, ça m'a toujours beaucoup surpris quand mes enfants ont commencé à chercher du travail. Je disais, mais c'est pas comme ça qu'on fait. Moi, j'avais été élevée de manière tout à fait névrosée, j'allais dire. C'est-à-dire, on est au contraire humble. Écoutez, si on peut venir chez vous, ça serait bien. Non, pas du tout. Il faut maintenant, au contraire, dire... Voilà ce que je veux apporter à l'entreprise. Des gamins qui ont 25 ans, mais qui... Voilà, on voit bien quand même cette société qui est quand même là-dedans, et donc perte de soi, on voit bien la perte de chance que ça peut représenter pour les enfants. Alors, à long terme, bien sûr, la dépression chronique à l'âge adulte, hein, ça, c'est les enquêtes anglo-saxonnes qui l'ont montré, ça multiplie par deux le risque de dépression chronique à l'âge adulte, des gens qui vont être déprimés toute leur vie. C'est... Alors, tout ça, c'est des chiffres de gens qui n'ont pas été aidés, traités, soutenus, on est d'accord. Hein. Quand on est aidé, soutenu, etc., on n'a pas ces conséquences, on en est d'accord. En tout cas, on les a moins, sauf cas particuliers. Il y a une enquête qui a montré des symptômes psychotiques. Alors, c'est pas ça qui fabriquerait totalement la maladie mentale, mais ça la déclencherait plus précocement. Voilà. C'est-à-dire que si vous deviez faire une schizophrénie à 24 ans, vous allez la faire à 18 ans. Pas tout à fait pareil quand même en termes de traitement, etc. Ça complique les relations sociales en groupe, je l'ai dit. Le risque de répétition à la génération suivante, par le fait que la violence est devenue un sujet tabou pour les victimes. Et quand donc l'enfant arrive en disant les copains veulent plus me parler, etc., le parent est complètement paniqué, ce que remarque immédiatement l'enfant qui dit « Oh là là, ce sujet-là tracasse mes parents, je ne lui en parle plus. » Et donc ça va se répéter parce qu'il n'aura pas d'aide auprès de sa famille. Alors, ce qu'on a trouvé aussi et qu'on ne sait pas expliquer, on ne sait pas pourquoi les filles victimes adultes développent des conduites antisociales. En règle générale, le harceleur a plutôt tendance à avoir des conduites qu'on appelle externalisées, c'est-à-dire qu'il règle ses problèmes, ses émotions, en rendant toujours l'autre responsable. Donc il va attaquer le cadre, il va s'en prendre aux autres. C'est la faute des autres si je ne vais pas bien, donc je les attaque. Éventuellement, quand ils ne se sentent pas trop bien eux-mêmes, ils vont s'auto-soigner avec des consommations de produits. Donc ils ont plutôt des conduites externalisées. Et les victimes ont plutôt des conduites internalisées, c'est-à-dire je ne me sens pas bien, je suis anxieux, je suis déprimée, etc. Et donc les filles étant plus souvent victimes, on a parlé du sexting tout à l'heure, mais elles sont beaucoup plus victimes du fait de ce harcèlement sexuel, etc. Du fait aussi que les filles harcèlent que les filles, mais les garçons harcèlent les filles et les garçons. Donc forcément, statistiquement, les filles sont plus victimes. Et on s'attendait à ce que les filles, elles aient des troubles que internalisés. Et bien les filles victimes, elles ont des troubles internalisés et les troubles externalisés des garçons, c'est-à-dire des conduites antisociales. Donc elles ont double peine parce qu'elles sont deux fois plus victimes. Et elles ont double peine parce qu'en termes de conséquences, elles ont aussi des conduites antisociales. Elles sont plus volontiers agressives, en rupture avec le cadre social. Voilà. Et 75%, ça, Eric de Barbieu le rappelle toujours, des school shooters américains ont été des enfants harcelés. Heureusement qu'en France, les armes sont interdites, mais si jamais elles étaient autorisées, je ne sais pas si on n'aurait pas des chiffres qui se rapprocheraient aussi. Alors, pour les auteurs, parce qu'il faut en parler, on n'en parle pas trop, je rends vraiment grâce à Jean-Pierre Bellon d'avoir dit tout à l'heure, il fallait aussi s'en occuper. Ce n'était pas comme j'ai entendu récemment dans une intervention que j'ai faite à Lille, par un gendarme de prévention qui a commencé en disant « les auteurs sont des lâches, des peureux » et des gens pas bien. Ah, j'ai dit, ça commence bien. Comment est-ce qu'on va récupérer ça? Heureusement, c'est avec des infirmières scolaires qui étaient un peu quand même... qui ont pris la chose avec un peu de distance. Voilà. Alors, les auteurs, à moyen. Alors, il est vrai hein, que le harcèlement, Farrington et Toffi, hein, qui sont... je pense que Marzana connaît bien ces auteurs-là, qui sont des criminologues, qui ont beaucoup travaillé sur le harcèlement, ont en effet montré que c'est un facteur prédictif de délinquance chez les garçons. C'est vrai, tout à fait. Puisque un harceleur, en effet, a trois fois plus de risques de devenir délinquant à l'âge adulte. Dans la population générale, il y a 10% de personnes qui deviennent délinquants. Chez les gens qui ont harcelé, c'est 36%, donc c'est beaucoup, beaucoup plus. En effet, on a donc beaucoup de choses qui nous disent que ces harceleurs ont des événements de vie négative, parce que je vous ai raconté tout à l'heure, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui vont toujours rendre l'autre responsable de ce qui leur arrive, tout le temps. Vous imaginez les soucis qu'on peut avoir avec ça. Si vous êtes toujours en train de dire « c'est pas ma faute, c'est la faute de mon patron qui gère mal son entreprise, c'est la faute de ma femme ou de mon mari qui ne fait pas ce qu'il faut », au bout d'un moment, on vous dit « écoute, si je ne te remets pas en question, tu ne passeras pas, donc on te laisse tomber ». Donc ces personnes vont de travail en travail, de conjoint en conjoint, avec le sentiment qu'ils sont eux dans leur bon droit et que les autres, en effet, ont tout à fait tort. Donc, on imagine tout ce que je vous ai mis là, difficulté d'emploi, chômage, rupture sentimentale. Problèmes éducatifs avec leurs enfants. On sait que pour élever ses enfants, il faut quand même sacrément se remettre en question et être tout à fait capable aussi de se dire « l'enfant a le droit d'être différent de moi », ce qui est très difficile. Voilà. Et finalement, quand ces harceleurs n'arrivent pas à toujours rendre les autres responsables, parce que parfois ils arrivent dans des impasses, eh bien là, ils ont un risque dépressif. Et ce qu'ont montré les enquêtes longitudinales, c'est que au final, victimes et harceleurs se retrouvent avec le même risque dépressif, pas par les mêmes biais, bien évidemment, mais avec le même risque. Et ça valide aussi cette idée qu'ils ont des points communs dans l'enfance, cette vulnérabilité dont il faut s'occuper de manière conjointe. Ce sur quoi je voudrais insister aussi, moi j'ai beaucoup travaillé sur la période développementale, c'est-à-dire plutôt les 8-16 ans. Je considère que du harcèlement qui commence après, pas celui qui a commencé au collège en primaire, qui continue au lycée, c'est le plus fréquent celui-là, hein, celui qui commence au collège finit au lycée, celui-là c'est assez fréquent, et ça, ce que je viens de vous dire, s'applique. En revanche, quelque chose qui commencerait à partir de 16, 17, 18 ans, là on est dans des personnalités plus pathologiques, et c'est sans doute l'écart qu'il y a entre le harcèlement à l'âge adulte et le harcèlement chez les enfants. Ça se recouvre sans doute pas complètement. Il y a des liens, mais ça se recouvre pas complètement, parce qu'il y a des gens qui, devenus adultes, ont de bonnes ou de mauvaises raisons. En tout cas, c'est pas les mêmes que l'échec de la dynamique de groupe dont il a été question tout à l'heure. C'est pas tout à fait le même mécanisme. Voilà, ça se recouvre pas complètement. Les conséquences transgénérationnelles, ben, les adultes ont du mal à développer des relations, ils peuvent maltraiter leurs compagnons. Voilà, et les parents, bien sûr, anciennes victimes, je l'ai dit, protègent les enfants, ce qui les prédispose à devenir victimes à leur tour. Alors, comment on peut agir pour en terminer? Ben, l'idée, c'est de prendre un à un les mécanismes et de prendre en place des contre-mesures, hein, c'est le plus simple. Alors, les propos agressifs, moi, je pense qu'il faut reconnaître le droit de citer donc à des pensées agressives. On a le droit de ne pas être d'accord, mais notre éducation, la vie en société fait que il faut les présenter d'une manière qui soit utile à l'autre. Voilà. On ne doit pas dire quelque chose juste pour se soulager. Si en effet tu penses que la personne qui est en face de toi, je ne sais pas, elle sent pas bon, eh ben, si tu dois lui dire quelque chose, c'est peut-être pour lui dire, écoute, si tu as des soucis avec la transpiration, tu sais, il y a des dermatologues qui peuvent t'aider. Vous voyez, c'est peut-être comme ça, c'est-à-dire que tu as le droit d'être dérangé par quelqu'un, parfaitement. Mais la manière de que tu dis quelque chose, c'est uniquement pour lui être utile et pas pour te moquer. Donc il faut reconnaître aussi au harceleur droit de citer à ses propres émotions agressives, mais lui dire la société, la vie en société, notre besoin qu'on a de vivre ensemble les uns des autres, c'est ça qui fait notre force et notre humanité, eh bien ça fait qu'on doit trouver un moyen de le dire d'une manière qui ne blesse pas l'autre, mais qui l'aide au contraire. Voilà. Éviter de moraliser au mauvais sens du terme, c'est-à-dire c'est pas bien, mais dire, bon, tu l'as fait, très bien, qu'est-ce que tu aurais pu faire d'autre? Voilà, c'est plutôt donner des solutions, plutôt dans ce sens-là, que simplement moraliser. Les ateliers sur les émotions, Omar Zana l'a dit, bien sûr que oui. À l'école, on peut faire en effet des binômes, hein, psycho, infirmier, médecin, voilà, tout type de binôme, parce qu'il faut déjà un peu former, parce que souvent, moi ce que j'ai rencontré en tout cas auprès des enseignants, c'est qu'ils ont peur d'être débordés. Ils ont déjà peur. Alors il a été question tout à l'heure, Omar Zana l'a dit, de laisser passer des émotions, mais on dit ça, on a beaucoup dit ça aux enseignants. Hein, tout le monde s'est moqué lors des premiers IUFM en 91. Il y avait un cours qui avait été fait aux enseignants disant surtout ne laissez rien paraître de vos émotions. Surtout, tout se joue dans la première heure. Alors, on apprend aussi aux enseignants à ne pas laisser parler leurs émotions. Donc, ce n'est pas étonnant, après, la réponse qui a été faite à Omar Zana. Serge Boimard aussi en parle souvent. Il dit, finalement, il y a beaucoup d'enseignants qui ont terriblement peur de laisser passer les émotions parce qu'ils ont peur de ne plus contenir la classe après. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait aussi d'autres personnes, je crois, en plus des enseignants qui aident et qui soutiennent en disant, vous savez, ce n'est pas très difficile. Hein, et vous allez voir ce qui a été montré là en vidéo, ça prend vite, ça prend tellement vite que même les enfants ont dit à la maîtresse et maîtresse, où elle est ton étiquette. Donc les enfants qui n'ont pas trop de soucis, pas tout à fait ceux qu'on a nous en psychiatrie, les enfants qui n'ont pas trop de soucis, ça se passe plutôt bien. Donc on peut rassurer les enseignants, leur dire, mais vous savez, vous allez voir, c'est plutôt sympathique et il va y avoir des répercussions sur l'apprentissage aussi. Mais il faut accompagner les enseignants, on ne peut pas leur demander d'emblée de faire ça tout seul. Ça, je crois que c'est important. Travailler sur la dynamique de groupe, puisqu'il faut éviter que la victime soit seule, hein, ça a été dit. Donc, bien sûr, expliquer que dans un groupe, évidemment, il y a des choses qu'on ne dit pas, les secrets, mais il y a d'autres choses qu'il faut répéter quand quelqu'un est en difficulté, bien sûr. Il faut arrêter le terme de balance, il faut pouvoir peut-être en discuter aussi. Hein. Voilà, qu'est-ce que c'est qu'une balance, hein, qu'est-ce que c'est aussi qu'un rapporteur. Moi, j'en disais ça quand on était plus jeune. Voilà, il faut peut-être travailler là-dessus. Et puis, les modalités d'intervention, je reviendrai sur ce que Marzana a dit tout à l'heure, ça dépend beaucoup de l'âge. Je suis complètement d'accord sur cette histoire d'empathie émotionnelle, d'empathie cognitive, mais précisément parce que je pense qu'il y a aussi un développement de l'empathie. Je pense que quand les enfants sont jeunes, on est plutôt de l'empathie émotionnelle, en tout cas moi c'est ce que j'ai retrouvé dans les travaux de thèse que j'ai fait faire, plus de l'empathie émotionnelle, et qu'en grandissant, la capacité de se mettre à la place de l'autre sur le plan cognitif apparaît. On peut donc plus naturellement chez les plus jeunes, jusqu'au CM1, CM2, comme ça a été fait, travailler sur le ressenti avec se mettre à la place de l'autre, etc. Et puis peut-être pour les plus âgés, les grands collégiens, éventuellement les lycéens, des débats où là vraiment l'aspect plus cognitif peut tout à fait suffire à prendre conscience des choses sans passer par le ressenti. Parce que quand même au collège, passer par le ressenti corporel en pleine période de puberté, ça risque d'être un peu chaud. Donc je méfierais un peu. Après, ça dépend des classes, hein, mais méfierais un petit peu. Donc voilà. Donc éviter d'aggraver la situation, ça a été dit. Voilà, ce qui veut dire se méfier aussi des émotions de tout le monde. On n'a pas beaucoup parlé des parents tout à l'heure, mais on a dit il ne faut pas judiciariser, je suis d'accord à 100%, ne pas judiciariser parce que c'est bon, un risque, faire courir le risque d'abord que ce soit classé ensuite, ce qui affecte profondément la victime, qui renforce le harceleur dans l'idée, vous voyez bien que ce n'est pas grave, donc ça il ne faut pas. Et puis, c'est mettre tout de suite ça sur le dos de la justice, alors que ça devrait rester d'abord quelque chose d'éducatif. La coéducation, ça a été rappelé par le ministre tout à l'heure, la coéducation c'est extrêmement important, il faut que ça reste au niveau éducatif dans un premier temps, mais il faut tenir compte de l'émotion des parents. Et ça, il faut aussi accompagner les enseignants pour s'occuper de l'émotion des parents. C'est la communication non violente, dont on a beaucoup parlé au début dans les premières campagnes, on en parle moins. C'est toujours valable. Quand un parent arrive à l'école et dit « Vous n'avez pas surveillé mon enfant, il se fait harceler depuis des semaines », forcément l'autre se défend. Donc il va falloir retiercéiser tout ça. Apprendre aussi, c'est pour ça je pense une vraie chance pour notre société de s'occuper de cette problématique. Si on apprenait tous à avoir une communication un peu non violente, à ne pas dire « Tu n'as pas fait ça, mais ça me gêne quand tu ne fais pas ça », c'est-à-dire parler de soi déjà. C'est pas être nombriliste, mais c'est aussi laisser la possibilité à l'autre. C'est pas un goujat, il vous dit ben, je m'en fiche que ça fasse ça, il en a la possibilité. Mais si c'est pas quelqu'un d'absolument affreux, se disent au fond, voilà, cette personne souffre à cause de moi, je peux faire quelque chose. Mais ça n'oblige pas à se défendre immédiatement. Quand on dit tu n'as pas fait ça, la première réponse, c'est la défense. Ça, c'est pas une très bonne chose. Voilà. La sanction est indispensable. Mais pour conclure, s'occuper du harcèlement vers un changement sociétal. Et ben voilà, j'ai fini, pile, j'avais regardé, hein. Voilà, donc communication non violente, j'en ai parlé, s'occuper de nos émotions à la victime, le harceleur, les parents aussi, revoir nos principes éducatifs, et ne jamais oublier, ça a été dit, je le reprends aussi, que nos enfants nous prennent pour modèle, ils sont plus sensibles à nos comportements qu'à nos paroles, et que le climat scolaire et la relation entre adultes, entre enseignants, bien sûr, enseignants-parents, sont déterminantes, et que ça c'est extrêmement important. Voilà, je vous remercie.